Chapitre 34. L'été touchait à sa fin lorsque Jean-Noël reçut une lettre dont la première adresse avait été rayée. Ratures et surcharges lui rappelèrent la lettre de Marguerite et ce fut avec appréhension qu'il déchira l'enveloppe. C'était Madame Mercier qui lui écrivait. Elle disait à son fils qu'il avait beau se cacher, elle le retrouverait. Émile avait été congédié par M. Vurzel. Elle se trouvait à présent, à cause de Jean-Noël et de cet hypocrite Odile, dans un appartement dont le loyer était beaucoup trop élevé pour elle. Tout cela avait été un coup monté. Quand Jean-Noël l'avait obligé à quitter la rue Mouton-du-Vernay, il savait déjà qu'il abandonnerait sa femme et qu'il mettrait sa mère dans cette situation. Il ressemblait à son père. Annie lui avait tourné la tête. Mais il y avait une justice sur cette terre. Madame Mercier retrouverait sa rivale, dut-elle dépenser toutes ses économies et demander ensuite aide à un commissaire de police. Cette lettre, en arrivant au moment où il s'attendait chaque jour à être traduit en justice par Marguerite, le bouleversa. Un instant, il songea à écrire à Madame Mercier pour lui dire de patienter, pour lui dire qu'incessamment il lui donnerait de l'argent. Mais à quoi cela eût-il servi ? Il envisagea alors de tout raconter à Annie. Il guetta son retour. À la fin de l'après-midi, comme elle n'était pas encore rentrée, il abandonna cette résolution. Annie ne rentra pas non plus pour le dîner. Finalement, il se rendit seul à la crèmerie de la rue Campagne Première. Quand il revint, Madame Ettlinger n'était toujours pas là. Il installa sa table de travail, alluma une lampe à pétrole, éteignit l'électricité, puis, s'asseyant dans un fauteuil, ferma les yeux. Comme la fenêtre était ouverte, des papillons tournaient autour de la lampe. D'un atelier voisin, de la musique venait jusqu'à lui. Cette soirée avait quelque chose d'infiniment paisible. Ce n'était qu'une soirée d'été comme toutes les soirées d'été, pleine de cette mélancolie qui émane des délassements précédant le sommeil. Jean-Noël, de temps à autre, songeait à Marguerite, à la lettre qu'il venait de recevoir. Qu'allait-il arriver d'ici quelques jours? Comment se faisait-il que, quoiqu'il n'eût pas tenu sa promesse à Marguerite, celle-ci ne donna pas signe d'existence? Le relancerait-elle, elle aussi, rue Boissonnade? Ses réflexions ne l'empêchaient cependant pas d'écouter avec attention tous les bruits de pas qui résonnaient dans la cour, afin d'avoir le temps de se mettre à sa table de travail, car le tableau qu'il ferait alors, au milieu de la nuit, avec sa lampe éclairant ses livres et ses papiers, il savait qu'il était de ceux qui frappaient l'imagination de sa belle-mère. Minuit avait sonné depuis une dizaine de minutes lorsqu'il entendit une automobile s'arrêter devant la maison, puis la voix d'Annie. Un ami sans doute l'avait accompagnée et elle le remerciait. Il reconnut ensuite son pas dans la cour, puis dans l'escalier. Il y avait déjà une minute qu'il s'était mis à sa table lorsqu'au lieu d'entrer, Annie frappa. Sans s'en apercevoir, il avait fermé la porte à clef. Il se leva à contre-cœur, alla ouvrir, et seulement après qu'elle se fût aperçue qu'il n'avait eu pour toute lumière que celle de la lampe à pétrole, il tourna le commutateur. « C'est bien, dit Madame Ettlinger avec indifférence, de travailler ainsi. » Il y avait longtemps qu'elle s'était lassée de peindre des Monsieur Meynier, lequel d'ailleurs, au lendemain de la visite de Madame Villemur, d'admirative du talent d'Annie, était devenue admirative de sa beauté. Elle s'était réconciliée avec son frère. Peu à peu, elle avait repris contact avec certaines de ses amies. C'était justement de chez l'une d'elles qu'elle venait. Mais de ce changement qui s'était accompli en elle, elle n'avait pas parlé à son beau-fils, désireuse qu'elle était sans doute de ne pas le distraire de son travail. « Tu le dis sans conviction, observa Jean-Noël. » Quand elle revenait d'une soirée où elle avait eu le sentiment de plaire, elle ne changeait rien à sa toilette avant un bon moment. Sans se déganter, sans ôter le léger manteau qu'elle avait posé sur ses épaules comme jadis Jean Melchior posait son pardessus, elle alla et vint dans l'atelier, silencieuse mais intérieurement agitée. « Tu sais, mon cher Jean-Noël, dit-elle en retournant une de ses toiles et en la contemplant comme si à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit elle était préoccupée par son art, que le travail ne récompense que ceux qui l'aiment. Je l'aime justement. Tant mieux, dans ce cas, il te récompensera. » Cette observation assombrit Jean-Noël. Annie s'en aperçut. Tu es fatigué, il faut que tu montes te coucher. » Quand il fut dans sa chambre, une grande tristesse l'envahit. La maison était à présent silencieuse et l'atmosphère si douce de soirée d'été avait disparu. Ce n'était plus une nuit sereine que celle qui l'entourait dans cette chambre banale, toute pleine de photographies d'inconnus. Au loin, il y avait des lumières et des bruits d'automobiles venaient jusqu'à lui. Il pensa alors que sa belle-mère avait peut-être remarqué que le zèle qu'il apportait à ses études n'avait rien de sincère. Selon son habitude, elle ne lui disait rien, se réservant de prendre une décision irrévocable. Et si Annie, déjà mal disposée à son égard, venait à apprendre qu'il était condamné à une pension de 2000 francs, que sa mère et son frère allaient de nouveau être à sa charge, que se passerait-il? Ce pessimisme était-il la conséquence des heures d'attente qu'il venait de vivre dans l'atelier? Il ne le savait pas. Ses pensées se brouillaient et pourtant le sentiment qu'il devait agir le poursuivait. Ce fut alors que l'idée de revoir Madame Mourier lui vint à l'esprit. Elle avait toujours été de bons conseils. « Si jamais tu as un ennui, viens me voir », lui avait-elle dit souvent. Elle aimait à s'attirer des droits à la reconnaissance. Le lendemain, Jean-Noël se rendit rue Laugier, non sans une certaine appréhension. Madame Mourier était peut-être remariée. Quelle attitude prendrait-il s'il se trouvait brusquement en présence d'un monsieur qu'il ne connaissait pas? Et puis, dans le fond, à quoi servirait cette démarche? La destinée de chacun est étrange. Les années qu'il avait passées aux côtés de Laure, il s'était imaginé qu'il les avait perdues, qu'un jour prochain, elle serait comme si elle n'avait jamais existé, et aujourd'hui, il s'apprêtait à chercher un réconfort auprès de cette même femme qu'il avait jugée indigne de demeurer dans son souvenir. Quand il arriva rue Laugier, le concierge, après avoir manifesté une certaine satisfaction de revoir un ancien locataire, lui apprit que Madame Mourier avait quitté la maison, qu'elle avait loué un appartement beaucoup plus grand, avenue Niel, qu'elle avait hérité de sa mère, qui était morte, ce qui surprit Jean-Noël, car Laure lui avait bien parlé de cet héritage, mais sans paraître y croire elle-même. Il se rendit à l'adresse indiquée et fut surpris par la majesté de l'entrée. Madame Mourier ne lui avait donc pas menti. Elle avait appartenu vraiment à une bonne famille et si elle avait été obligée de compter parfois, cela avait dû lui être aussi pénible, sinon plus, qu'à lui. En sortant de l'ascenseur, Jean-Noël remarqua tout de suite qu'il n'y avait qu'un appartement par étage, comme avenue de Malakoff. Laure ne pouvait habiter seule. Il sonna finalement. Une femme de chambre lui ouvrit et comme il demandait à parler à Madame Mourier, elle répondit « Si monsieur veut attendre un instant, je vais aller voir si madame est là. » Peu après, elle faisait entrer Jean-Noël dans un salon où il ne reconnut aucun des meubles de la rue Laugier, mais où il retrouva cependant certains goûts de Laure, entre autres celui qu'elle avait pour les rideaux de mousseline et les bibelots. Quelques minutes après, Madame Mourier le rejoignit. Ces deux dernières années avaient fait d'elle une autre femme. Le temps où elle avait vécu au jour le jour, où elle n'avait attaché aucune importance à son intérieur, où elle avait aimé à sortir et à s'habiller d'une manière voyante, était passé. En la revoyant, vêtue sobrement mais avec élégance, Jean-Noël sentit que l'esprit, lui aussi, avait changé. « Eh bien, Jean-Noël, dit-elle tout de suite, tu as daigné enfin venir me voir. » Elle fit signe aux visiteurs de s'asseoir, puis, après avoir sonné, elle demanda à la femme de chambre d'apporter différentes boissons. « J'ai appris, continua-t-elle, que tu étais séparée de ta femme. »« Par maître Préfil ?»« Je ne peux pas te le dire. » Puis, changeant de ton, elle ajouta « Si tu m'avais demandé un conseil, au lieu de vouloir agir à ta tête, tu ne te serais jamais mariée avec cette demoiselle. » Ce reproche ne fit pas sur Jean-Noël un bien grand effet. Il sentait que Madame Mourier lui témoignait toujours de l'intérêt et c'était tout ce qu'il désirait. Ça avait été, en effet, en personne pour qui le passé est resté d'une netteté parfaite qu'elle s'était exprimée. « Tu dois être heureux à présent, reprit-elle, puisque tu es arrivé à tes fins. Qu'est-ce que tu veux dire? N'avais-tu pas toujours rêvé de vivre auprès de ta belle-mère? » Puis, comme si elle s'intéressait vraiment au sort de Jean-Noël, elle ajouta « Est-elle au moins avec toi comme tu l'espérais ?»« Oui, répondit Jean-Noël. Ce qui le frappait surtout dans cette entrevue, c'était l'exactitude des souvenirs de Madame Mourier. La situation dans laquelle il s'était trouvé vis-à-vis de Madame Mourier, malgré le changement d'existence de celle-ci, demeurait dans son esprit aussi nette que si elle datait d'hier. Il ne semblait s'être écoulé aucun temps. Jean-Noël était embarrassé. Cette femme, il le devinait, était fière de ne lui avoir causé aucun ennui, et tout dans son attitude disait qu'elle était loin de ressembler à une Odile Wurzel. Elle était bien au-dessus de toutes les mesquineries de la vie bourgeoise. Ne le recevait-elle pas comme peu de femmes l'eussent fait, sans arrière-pensée, avec plaisir ? « Tu avais raison, dit-il, je n'aurais jamais dû me marier avec Mademoiselle Wurzel. Mais, si tu te souviens, j'étais dans une situation sans issue. » « Pas du tout. Si tu étais resté chez Maître Préfil, aujourd'hui tu n'aurais à te soucier de rien, ce qui ne doit pas être le cas, n'est-ce pas ?» En effet, il raconta ses soucis. « Et je ne peux rien dire à Annie, ajouta-t-il, car si elle savait tout cela, elle m'en rendrait responsable. » « Et elle aurait raison, dit Madame Mourier. Mets-toi à la place de ta belle-mère. Elle a déjà tellement fait pour toi. Elle a déjà eu à souffrir de tant de choses. » Dans l'esprit de Madame Mourier, Annie avait toujours été victime des gens qui l'entouraient, un peu comme Laure croyait l'avoir été elle-même et comme l'étaient la plupart des femmes. « C'est justement pour cela que je veux qu'elle ne sache rien. » Jean-Noël avait l'impression que Madame Mourier ne songeait qu'à Annie. « Il me semble, dit-elle, que le mieux pour toi serait que tu aies une explication avec ta belle-mère. »« Ce n'est pas possible. » « Veux-tu que je lui parle de toi ?» C'était depuis le début de cet entretien que Madame Mourier cherchait un prétexte pour se rapprocher d'Annie. Bien qu'elle eût toujours faim de ne prêter aucune attention à la belle-mère de Jean-Noël, afin que celui-ci ne tirât pas vanité du contraire, elle considérait Madame Ettlinger comme une personne faite pour s'entendre avec elle. Mais la difficulté était de passer par-dessus Jean-Noël. « J'écrirai à ta belle-mère, dit Madame Mourier, et je lui demanderai un rendez-vous. Je lui parlerai de toi et, ajouta-t-elle avec un sourire, tu sais bien que j'ai beaucoup d'influence sur elle. » Mais s'il y avait une chose que Jean-Noël ne voulait pas, c'était bien celle-là. Il craignait le zèle de Madame Mourier. Il sentait qu'elle se faisait des illusions. Cela, il ne pouvait le lui dire. « Ma belle-mère ne veut voir personne, répondit-il. Elle traverse en ce moment une période assez sombre et c'est justement cela qui est la cause de mes ennuis, car je n'ose pas lui en parler, sans quoi tout serait déjà arrangé. »